Cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous. Dans l'Amérique et vous ce soir, interview à bâton rompu avec le docteur France Lecomte. Interrogé par Timothée de Nangmaï, il évoque les derniers développements des émeutes de Ferguson. Le ministère de la Justice américaine a annoncé mercredi 4 mars qu'il n'inculperait pas le policier qui a tué en août un jeune noir à Ferguson, dans le Missouri. Michael Brown, 18 ans, non armé, avait été tué par le policier en patrouille le 9 août. Je ne vous en dis pas plus. L'Amérique et vous, bienvenue à Washington.
Professeur, le département américain de la justice a publié cette semaine son rapport sur la situation à Ferguson en rapport avec les émeutes qu'il y a eu là-bas. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'ensemble de ce rapport?
Bon, c'est vrai. Il y a un rapport vraiment qui a soutenu que des pratiques de discrimination raciale existent à Ferguson, dans l'État du Missouri, et d'abord au sein des services de police, autant qu'à la cour municipale et même en prison. Le rapport là qu'on a rendu public, eh bien justement accuse la police d'avoir utilisé de la force de façon disproportionnée contre les noirs, et que les automobilistes noirs sont arrêtés, sont fouillés beaucoup plus souvent que les automobilistes blancs, et cela même s'ils sont moins susceptibles de transporter des marchandises de contrebande. Donc c'est un rapport assez chargé, assez lourd, et qui accuse la police de Ferguson, la justice de la ville exactement, et aussi, enfin, toutes ces institutions étaient engagées dans une sorte de routine de discrimination contre la population noire locale, et même les grandes chaînes de télévision aux États-Unis telles que la CNN, le quotidien Washington Post, et enfin, on reconnaît tout cela, parce que de 2012 à 2014, alors que ces Noirs-là représentaient 67% de la population locale, 85% des voitures arrêtées par la police, eh bien, étaient conduites par des Noirs. 90% des personnes convoquées au tribunal étaient noires et 93% des personnes arrêtées étaient noires. Donc la force était utilisée dans 88% des cas contre les Noirs américains.
Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre par la notion de racisme ordinaire ou de routine dont fait usage le rapport?
C'est un racisme, si vous voulez, qui est utilisé comme une sorte de routine quotidienne, et cela, bien sûr, depuis des années, parce que quand même, de 2011 à 2013, les Noirs représentent, disons, 95% des inculpations pour infraction, 92% pour trouble à l'ordre public, et selon des chiffres, ce sont des chiffres qui sont cités, si vous voulez, par les grandes chaînes de télévision, les grands quotidiens aux États-Unis d'Amérique. Et le ministère de la Justice américaine, eh bien, a lancé cette enquête au sujet des droits civils après qu'un jeune homme de 18 ans, Michael Brown, un jeune homme noir de 18 ans, non armé, eût été abattu en août dernier par un policier blanc. Donc alors, c'est un meurtre qui a surtout entraîné des semaines et des semaines de manifestations.
Alors professeur, malgré ce rapport qui accable la police de Ferguson, le gouvernement fédéral, la justice fédérale, a refusé d'engager des poursuites contre le meurtrier de Michael Brown. Pourquoi ?
Le ministère de la Justice américain a annoncé, même depuis mercredi, depuis hier, qu'il n'inculperait pas le policier qui a tué ce jeune noir non armé à Ferguson, Missouri. Pourquoi? Parce que on ne peut pas savoir si Darren Wilson, le policier qui a tué le jeune noir, s'il avait agi avec une intention criminelle, a conclu ce rapport. Donc on sait qu'il a utilisé de la force, si vous voulez, d'une façon tout à fait disproportionnée, mais on ne peut pas dire justement qu'il avait pensé qu'il allait commettre un meurtre et qu'il allait vraiment descendre ce jeune noir. c'est très regrettable. On a bien raison d'enquêter, si vous voulez, sur ces cas de racisme. Et c'est pas vraiment le seul État aux États-Unis dans lequel, enfin, nous constatons ces drames, si vous voulez, d'une manière quotidienne.
Est-ce que le rapport relève des éléments du contexte de Ferguson qui pourraient expliquer cette prévalence du racisme contre les Noirs là-bas?
Des enquêtes qui ont été réalisées sur un bon nombre d'années, c'est-à-dire c'est presque depuis 2011 jusqu'à 2014 et jusqu'à 2015. Et ce sont des faits qui sont constatés non seulement dans l'État du Missouri, mais dans d'autres États des États-Unis, dans tout le Sud, par exemple. Et même cette histoire d'identifier, si vous voulez, les Noirs comme des coupables, si vous voulez, comme des criminels, comme des gens qui auraient, disons, accompli commis, si vous voulez, des crimes, même sans savoir. Donc, cette sorte de pratique, eh bien, s'est révélée bien raciste, parce que les automobilistes noirs sont arrêtés comme ça, et cela, c'est un fait, si vous voulez, qui se matérialise dans la plupart des États, si vous voulez, des États-Unis. C'est que les Noirs, d'ailleurs, sont minoritaires. S'ils sont minoritaires, c'est tous les habitants qui se trouvent aux États-Unis. Pourquoi donc, en prison, serait-il majoritaire?
Mais dans le cas de Ferguson, professeur, les Noirs constituent jusqu'à 67% de la population, dont la majorité.
Écoutez, tout ce que révèlent les statistiques prouve d'abord que les Noirs sont accusés beaucoup trop facilement. Par exemple, nous disons que de 2012 à 2014, les Noirs ne sont que 67% de la population locale. Mais 85% des voitures arrêtées par la police étaient noires. 90% des personnes convoquées au tribunal étaient noires. Et 93% des personnes arrêtées étaient noires. Donc la force était utilisée dans 88% des cas contre les Noirs américains. Alors, est-ce que les Noirs doivent être des gens qui sont là simplement pour être inculpés et à un niveau de 95% des inculpations, c'est-à-dire à Ferguson? Donc, écoutez, les Noirs ne sont pas les seuls à troubler l'ordre public et pourtant, ils ont été punis, enfin, jusqu'à un niveau de 92%.
Mais, professeur,
c'est ce qu'on trouve à l'ordre public.
Oui, professeur.
Je crois que c'est tout à fait injuste. Cela prouve un racisme, disons, sinon historique, mais au moins traditionnel ou du moins ordinaire.
Mais la question qu'on se pose, c'est s'il constitue la majorité de la population de Ferguson, c'est noir. D'où vient-il qu'il n'ait pas le moindre pouvoir pour influer sur les choses là-bas?
Ah, ça c'est une question qui s'adresse particulièrement au domaine, disons, sociopolitico-économique. Hein. C'est-à-dire, s'il représentait en majorité les forces de l'ordre, probablement on aurait pu éviter cette victimisation, si vous voulez, de manière quotidienne. On aurait pu l'éviter dans l'appareil de la justice. Est-ce que ce sont les Noirs qui sont majoritaires? Est-ce que, par exemple, les gens qui travaillent avec le gouvernement de l'État, est-ce que les Noirs sont majoritaires? Je ne pense pas. Et c'est pourquoi justement, qu'il y a un travail profond qui doit être exécuté ici aux États-Unis et qui doit être encouragé de manière à ce que les Noirs puissent avoir, qu'ils puissent être plus instruits, qu'ils puissent vraiment aller dans les domaines qui sont jusqu'à présent privilégiés et qui sont retenus, si vous voulez, pour des Blancs, etc., etc. Moi, je crois qu'il y a racisme et c'est pas simplement au Missouri, c'est dans presque tous les États des États-Unis.
Les conséquences de cette situation, c'est une véritable crise de confiance qui s'est installée entre les populations noires et la police ici aux États-Unis.
Eh bien, moi, je crois que la police, c'est un mal nécessaire. Il faut un peu de protection. Il faut que la police soit dans les villes, on comprend bien. Mais il faut qu'ils soient, que ces policiers puissent suivre, si vous voulez, un entraînement adéquat. C'est-à-dire, à un niveau culturel, moi, je crois qu'il y a beaucoup de manques. Je crois qu'il y a beaucoup de lacunes. Il faut que ces policiers apprennent que les Noirs sont des hommes. Et je vais vous donner la preuve. Et même quand ils s'agit de l'État du Missouri, on a trouvé des messages piège courriel qui disent que, ah bon, ne vous en faites pas, le président ne va pas rester 4 ans au pouvoir puisque les hommes noirs ne travaillent pas, ne tiennent pas leur poste pendant 4 ans. Ah, ça, c'est tout à fait injuste. Voilà pourquoi je crois qu'il faut vraiment un peu plus de travail, si vous voulez, du côté des minoritaires. Il faut qu'ils puissent accéder à d'autres postes, c'est-à-dire des postes de grande importance, pour qu'ils soient visibles, pour qu'on puisse comprendre qu'ils sont aussi des hommes, qu'ils respectent la loi, qu'ils sont des ouvriers sérieux et qu'ils sont des parents, si vous voulez, tout à fait responsables.
L'Amérique et vous, en direct de Washington. Vous êtes à l'écoute de l'Amérique et vous. Timothée Donong-Mai reçoit Dr. Franz Lecomte. Avec lui, il évoque les suites des tueries du jeune noir à Ferguson.
Durant les manifestations qui ont mobilisé les Américains un peu partout contre la violence policière, on a vu beaucoup de Noirs, mais aussi des gens d'autres races, des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, qui sont sortis nombreux pour parler de ce problème-là.
Heureusement, parce que ce mal du racisme, si vous voulez, ne se pratique pas, c'est-à-dire partout. Il y a des gens tout à fait lucides, il y a des gens qui manifestent leur solidarité vis-à-vis, si vous voulez, des minorité aux États-Unis. Heureusement, parce qu'autrement, mon Dieu, c'eût été un plus grand massacre. C'est-à-dire, les États-Unis, c'est un pays, si vous voulez, qui a été bâti, qui a été construit, si vous voulez, par beaucoup de gens qui sont venus d'ailleurs. Et voilà pourquoi les États-Unis devaient être un pays où les Noirs puissent vraiment travailler en paix, puissent être respectés, si vous voulez, comme tous les autres.
Est-ce que vous pouvez nous dire si l'arrivée du président Barack Obama à la Maison Blanche est pour quelque chose dans ce qu'on a observé, ces violences qu'on a observées à l'égard des minorités?
C'est très difficile de dire tout ça, mais il faut dire que la présence de Barack Obama à la présidence des États-Unis a en quelque sorte encouragé, si vous voulez, des gens qui disent que, bon, les Noirs ne sont que des gorilles. Lorsqu'on voit qu'il y a un président noir aux États-Unis, on peut penser qu'il y aura un jour un vice-président qui sera noir. On a un ministre de la Justice qui est noir. Peut-être qu'il sera succédé par une autre noire. Enfin, mais des gens responsables, il y a une politique de visibilité qui doit être pratiquée aux États-Unis, et cela vraiment va probablement améliorer la situation générale.
À la faveur de ces incidents, des manifestations de Ferguson et d'autres villes, on a beaucoup parlé d'un autre problème, celui de la militarisation de la police. Et quel problème cette militarisation pose-t-elle ici aux États-Unis?
Moi, je crois que cela entraîne beaucoup plus de victimisation, si vous voulez, de la population minoritaire. La police n'a pas à avoir des armes de guerre. C'est-à-dire, ça ne se fait pas. Et quelle est la campagne, si vous voulez, que la police lance, si vous voulez, contre les pauvres noirs, contre, si vous voulez, les minorités en général aux États-Unis? Non, c'est une erreur, c'est une faute, et cela tend à précipiter, si vous voulez, cette forme de violence disproportionnée utilisée, si vous voulez, contre les pauvres victimes aux États-Unis. Bon, bien sûr, pour les minoritaires, c'est toujours pire, parce que nous ne sommes pas représentés, si vous voulez, à toutes les échelles de la société américaine, et voilà pourquoi on a tendance à prendre un noir pour dire, ah bon, oui, celui-ci-là, c'est un être inférieur. On a tendance à animaliser, si vous voulez, les minoritaires aux États-Unis, et une militarisation de la police, cela va entraîner beaucoup plus facilement cet emploi de la violence disproportionnée contre eux. C'est normal. Quand on a plus de gens, c'est-à-dire à toutes les échelles de la société des États-Unis, eh bien bon, je crois mieux que ça vaudra, parce que justement ça pourrait en quelque sorte diminuer ces abus, si vous voulez, qui sont faits sur les minoritaires aux États-Unis de manière générale.
La publication par le ministère américain de la Justice de ce rapport sur la situation à Ferguson traduit l'inquiétude des autorités américaines vis-à-vis du problème. Quel impact va avoir concrètement ce rapport?
Eh bien, cela pourrait en quelque sorte entraîner, disons, moins d'abus, c'est-à-dire de la part de la police, parce que si le gouvernement central, si le gouvernement s'intéresse, si vous voulez, à savoir ce qui se fait, ce qui est pratiqué par la police de manière quotidienne contre les minoritaires, eh bien, s'il y a des projets de ce genre, si on persiste à plus ou moins enquêter sur ce genre de choses, eh bien bon, cela tendra à faire baisser, si vous voulez, le niveau d'abus qui est commis, si vous voulez, aux États-Unis contre les minoritaires. Ça, il faudrait multiplier les enquêtes de ces gens. Je vois qu'on hésite beaucoup à imposer tous ces abus contre les gens d'autres races, etc., etc. Alors la noire est visée de manière tout à fait particulière et il faut que cela disparaisse aux États-Unis.
Alors, aux dernières nouvelles, les parents de Michael Brown, ce jeune noir abattu à Ferguson, on fait savoir qu'ils vont porter plainte au civil contre le policier qui l'a abattu. Alors, quelle est la différence entre cette démarche et la démarche pénale qui a échoué, qui n'a pas condamné le policier?
On peut comprendre que jusqu'à présent, la justice aux États-Unis, c'est-à-dire de manière générale, se manifeste d'une façon tout à fait partiale et partielle. On comprend ça très bien. Et c'est pourquoi on n'inculpe pas très souvent les policiers, si vous voulez, qui descendent les jeunes minoritaires ici aux États-Unis d'Amérique. Par contre, s'il y a des parents qui poursuivent en justice les criminels, ceux qui ont tué leurs enfants, eh bien, je crois que ça pourra un peu dissuader, si vous voulez, ces policiers d'utiliser, si vous voulez, cette grande brutalité dont ils ont fait montre, si vous voulez, dans leurs affrontements avec les minoritaires.
On a vu qu'au-delà de l'action judiciaire, les parents des victimes, que ce soit à Ferguson ou à New York ou en Floride, dans les différents cas, les parents ont voulu aller au-delà de leur tragédie pour essayer de mobiliser la société et lutter contre le problème.
Bon, je crois que c'est un problème qui mérite toute la solidarité, si vous voulez, nécessaire, que l'on soit noir, blanc, jaune ou de quelque race que l'on soit. Eh bien, il faut quand même solidariser. Il faut, on peut pas regarder, et ça nous va droit au cœur de voir ces parents qui ont beaucoup d'ambition pour leurs enfants et qui finalement sont appelés un beau jour pour dire que leurs enfants ont été descendus par la police. Ça, c'est vraiment un drame. C'est-à-dire lorsqu'on voit ces pauvres parents et qui ne s'expriment même pas, qu'ils souffrent tant, ils ne peuvent rien dire de cohérent, justement, parce qu'on regarde son fils qui est mort, on regarde sa fille qui est mort. C'est vraiment dégueulasse et il faut que cela cesse. Mais il faut avoir l'espoir en l'avenir. Il faut penser que peut-être un jour, le futur aux États-Unis pour ces minoritaires sera un peu mieux garanti. Mais comme l'ont dit certains messages courriel. Les Noirs sont des hommes qui sont responsables et qui sont responsables de leur famille et qui veulent passer plus de 4 ans au travail dans le même poste, comme on l'a dit contre le président. Parce que les Noirs, ce sont des hommes comme nous, les Jaunes, ce sont des hommes, tout le monde, c'est-à-dire, devait être respecté et on devait respecter les droits des minorités autant que les droits, si vous voulez, des majorités.
Une chose est sûre, toutes ces tragédies ont relancé ici, aux États-Unis, le débat sur les droits fondamentaux.
Oui, c'est tout à fait normal, parce que si les doigts sont foulés aux pieds, eh bien, il faut qu'on puisse un jour établir, si vous voulez, la justice, l'égalité des chances aux États-Unis. Les États-Unis, je le redis, c'est un grand pays qui offre beaucoup d'espoir, si vous voulez, presque à tout le monde. Donc, alors, vivre dans une société où l'on est persona non grata, ça peut pas arriver. C'est-à-dire, c'est pas nécessaire, c'est pas sérieux et c'est pas faisable. Moi, je crois qu'il faudrait appeler à une plus forte lucidité, si vous voulez, dans la société américaine. Je crois qu'il faut que cette société puisse se rendre un peu plus généreuse vis-à-vis de l'endroit de tout le monde. Il faut que les droits de tout un chacun soient respectés et ne soient pas foulés aux pieds.
Merci beaucoup, professeur, pour cet éclairage.
C'est moi qui devais vous remercier. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ces choses. choses profondes qui divisent la société américaine. Encore une fois, merci.
L'invité de l'Amérique et vous, c'était Dr. Franz Lecomte. Il a été interrogé par Timothée Donnangmaier.